Des reportages inédits,
des chroniques fantastiques,
de l'actualité et de la bonne musique.
Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, sur Radio Far West.
Pour une deuxième émission en compagnie de l'équipe Far West.
Du coup, aujourd'hui, ce sera de nouveau des bêtes de chronique, de la musique à en couper le souffle, des actualités et surtout de la bonne humeur.
T'oublies pas quelque chose par hasard ?
Non, je crois pas, pourquoi ?
Et le reportage de Jade ?
Ah ouais, effectivement. Bon, du coup, je recommence. Aujourd'hui, ce sera des bêtes de chronique, de la musique à en couper le souffle, des actualités, un reportage signé Jade et surtout de la bonne humeur.
Allez, yes, bravo ! On vous laisse avec des actualités présentées par Lucas et Mathéo.
Alors, mauvaise nouvelle pour les Suisses. Il va falloir s'asperger d'anti-moustique car le moustique tigre qui avait l'habitude de se trouver dans les pays du Sud se retrouve aujourd'hui en Suisse.
Eh bah oui, le réchauffement climatique, ça a même un impact sur la migration des moustiques qui viennent jusqu'à chez nous. De base, c'est quand même des moustiques asiatiques.
Non, mais c'est pas vraiment ça. En fait, on a trouvé des œufs de moustique tigre il y a 3 ans dans des cars qui venaient de l'étranger à Zurich. Et les œufs auraient survécu au froid de l'hiver.
C'est hyper impressionnant quand même, quand on sait d'où ils viennent et comment les températures sont différentes ici et là-bas.
Les autorités signalent aux habitants qu'il n'y a aucun risque, pourtant on sait que les moustiques tigres peuvent être les transmetteurs de certaines maladies comme la dengue ou le chikungunya.
Les habitants ont le devoir de prendre en photo ou de capturer l'insecte s'ils le voient et de l'amener au service de protection de l'environnement et de la santé.
Tu vas me dire comment on peut capturer un moustique tigre ?
Bah leur demander, j'en sais rien moi. Bref, il a aussi été repéré dans les grisons, au Tessin et à Bâle.
C'est hyper près de nous ça.
Bah ouais, d'où l'utilité d'en parler. Parlant de réchauffement climatique, le Conseil fédéral suisse a de nouveau parlé de la réduction d'émissions de gaz à effet de serre et veut viser la neutralité de son carbone dès 2050.
La neutralité du quoi ?
Du carbone.
Oui, bah j'ai entendu, mais c'est quoi ?
En fait, c'est un état d'équilibre entre l'émission de gaz à effet de serre d'origine humaine et son retrait de l'atmosphère par l'homme.
Ok, d'accord.
Oui, donc du coup, la Suisse est bien engagée à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et ça paraît plutôt prometteur.
Effectivement, Mathéo, ça paraît plutôt prometteur. Bon, du coup, on va maintenant écouter une chronique sur les sujets tabous.
Oui, c'est une chronique que j'ai réalisée avec le but de vous mettre surtout pour vous sensibiliser, pour vous mettre plus au courant sur des sujets dont trop peu de monde veut parler, et surtout pour vous sensibiliser sur le sujet.
T'arrives à nous expliquer juste comment tu t'y es pris, parce que à ce que tu m'as dit, ta structure est spéciale.
Alors oui, j'ai en fait fait la recherche de témoignages qui pouvaient vous toucher pour vous sensibiliser et que vous puissiez aussi contextualiser le sujet. Et après, je commente pour que vous puissiez mieux le comprendre et où je veux en venir.
Ok. Alors écoute, ça m'a l'air intéressant, on écoute ça tout de suite.
La première fois que j'ai eu mes règles... Si je me rappelle bien, j'étais avec mon oncle et mes cousins au camping. Donc un des pires endroits en fait pour avoir ses règles pour la première fois, j'avoue. J'étais bien en maillot de bain ce jour-là. Je suis allée aux toilettes et j'ai vu des taches. Et je vous laisse imaginer ce que je me suis dit. Je me suis dit que j'étais peut-être légèrement ouverte quelque part et qu'avec le sable, les cailloux, la plage, les coquillages, tout ça, ça avait donné toutes ces choses. Je sais pas, ça a pas trop de sens. Même moi, je croyais pas trop à mes théories, mais je voyais pas d'autre solution finalement. Du coup, j'ai laissé traîner ça et le jour d'après, c'était la même chose, mais en plus important. Et puis, bien le moment où je me suis rendu compte que ça venait bien de là, où ça devait venir en fait. Au bout d'un moment, il fallait que je me rende à l'évidence. Et quand je vous dis que j'ai paniqué. Je me suis dit que j'allais jamais y arriver, j'avais aucune protection. J'étais constamment en maillot de bain, en bikini du coup. Et j'avais aucune envie de le dire à mon oncle et mes cousins. J'étais dans une espèce d'impasse, je m'étais carrément mis à pleurer. Et puis une demi-heure plus tard, je me suis résolue. Donc sans autre solution, je me suis mis à prévenir mon oncle. Je suis arrivée vers lui en pleurant, en lui expliquant ma situation et qu'il me fallait en fait des protections. Sa réaction a clairement été celle que je redoutais. Il a rigolé en me trouvant ridicule et m'a dit qu'on irait les chercher plus tard. Donc j'ai attendu pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'ils décident enfin d'aller en acheter avec moi. Une fois arrivé au supermarché, il m'a tendu des tampons. Je savais ni la taille qu'il me fallait, ni comment les mettre. Encore une fois, j'étais seule face à cette situation, face à mon oncle, absolument pas compréhensif et en plus de ça moqueur. Vu qu'il n'y a pas de toilette dans un supermarché, j'étais obligée de rentrer dans une cabine d'essayage, d'enlever mon pantalon pour mettre le tampon que je ne savais absolument pas comment mettre. Je l'ai simplement pris et enfilé comme je pensais devant le mettre en fait. Et je vais pas vous décrire la douleur que je me suis infligée en l'enfonçant, hein, je peux pas vous faire un dessin non plus. comme je l'ai vraiment enfoncé comme une courge en fait, et surtout la douleur du choc toxique que j'ai engendré en pensant que je pouvais le laisser à l'intérieur pendant toute la journée, alors que cette chose est censée rester pas plus de 6 heures dans le parti intime, certains même 4. J'ai eu des fortes fièvres, douleurs musculaires, maux de tête, enfin je vous laisse aller checker la liste des symptômes sur internet, mais j'ai le trop package entier avec un aller rapide.
Cette situation, mis à part le choc toxique arrivant que très rarement, beaucoup de filles ont dû la vivre à cause du sexisme encore bien présent dans notre société et le fait que ce soit un sujet tabou.
Et oui, il y a trop d'ignorance sur le sujet qui concerne toutes les femmes et qui peut avoir des conséquences graves sur la santé.
Très peu de femmes se rendent compte de ce que contiennent les protections hygiéniques qu'elles posent 12 fois dans l'année, pour certaines pendant une semaine.
Et c'est là qu'on se rend compte qu'en parler aux filles devient alors primordial pour leur bien-être et justement, là est la nécessité d'en enlever le tabou.
Et maintenant, on va vous laisser avec une petite pause musicale avec East Side de Benny Blanco.
When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the inside, in the city with a sun on set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna leave tonight. We can go drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Starting the light together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me.
17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10-23, and we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day, you know where we'd ride through the back streets in a blue Corvette. I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put a mind to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away, starting to taste. Start a new life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to.
Rebonjour tout le monde, on revient pour parler à nouveau des troubles du comportement alimentaire ou autrement dit les TCA.
Oui, effectivement Jade, plus précisément toute l'équipe de Fort West revient pour vous parler de l'anorexie et de la boulimie.
Donc, du coup, moi et Lucas, pour vous remettre dans le contexte assez rapidement, dans la dernière émission, on a parlé de l'aspect général, donc l'impact sur la santé, sur le physique, ce que ressent une boulimique et une anorexique, mais il nous manque le pourquoi du comment.
Oui, oui. Ce que veut vous dire Jade, c'est que c'est pas seulement une question de poids, mais une question bien plus profonde. Et je parle ici des pensées et de l'état mental des malades.
Du coup, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui pour mieux comprendre ce paradoxe qui cible le mental?
Qu'est-ce qui se passe dans la tête des malades? D'où est-ce que ça peut venir? Pourquoi? Et comment on peut réagir devant un tel comportement? Voilà cette partie du reportage nous aidera alors à répondre à toutes ces questions.
Et peut-être à comprendre notre fameux paradoxe qui est les TCA à la fois sentiment de contrôle et d'angoisse, en cherchant justement à comprendre le mental.
Allez, assez parlé, je vous laisse avec la suite et je donne ma place à Leïla ici présente.
Hello tout le monde, c'est Leïla, donc je me retrouve avec Jade et étant donné que c'est son reportage, je vais lui donner assez rapidement la parole pour qu'elle puisse bien nous introduire de nouveau à son enquête.
Alors, oui du coup, on a parlé du comportement des jeunes filles qui souffraient de TCA, mais finalement, pourquoi elles agissent comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qu'elles ressentent et pourquoi est-ce que c'est si dur de s'en sortir?
Bah oui, parce que quand on y pense, il suffit au fond de se contrôler face aux crises et de recommencer à manger pour arrêter de maigrir, non?
Ouais, c'est vrai, mais justement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, Pour les anorexiques, ça commence souvent par un simple régime que les filles s'imposent en voyant les corps incroyables des modèles sur Instagram ou dans les magazines.
Bah oui, quand on y pense, quelle fille n'a jamais complexé par rapport à son corps ? En voyant tous ces corps incroyablement fins et souvent complètement modifiés, les jeunes se sentent beaucoup trop grosses et pas assez bien.
Oui, justement, on a tous eu un jour où on s'est dit « Vas-y, je vais me mettre au régime et tout va changer ».
Et après une semaine, les gâteaux nous rappellent que c'est trop tard. Et c'est trop tard.
Oui, c'est un peu ça, sauf que l'anorexique arrive à tenir justement ses convictions. Elle est tellement mal dans sa peau et sa tête qu'elle commence au bout d'un moment à s'affamer. Et de voir son corps maigrir lui procure un sentiment de contrôle et la pousse à continuer tout ça en fait. Vous voyez ce sentiment qui tord le ventre, la souffrance qu'on peut ressentir en s'affamant? Et bien les anorexiques en font leur force. Et en voyant leur poids diminuer peu à peu sur la balance, ça leur donne en plus ce sentiment de fierté et d'accomplissement personnel.
Oui, et puis elles rentrent après elles-mêmes dans ce cercle vicieux dont elles n'arrivent plus à sortir. À pas oublier qu'on peut aussi parler aussi de rejet du corps de la femme, parce que oui, quand elle perd du poids, elle perd aussi ses rondeurs, sa poitrine, et au passage à un certain stade aussi ses règles. C'est un phénomène qu'on appelle l'aménorrhée.
Oui, et justement la jeune fille retrouve son corps de jeune fille et elle rejette inconsciemment son vrai corps de femme.
Au fur et à mesure que la maladie s'installe, les kilos pour elle deviennent une vraie angoisse, et elle les fuit comme la peste. Hors de question de perdre du poids. Elles ont même des rituels où la moindre minime partie de graisse est scrutée dans le miroir.
Ça peut durer des heures, elles et leur miroir. D'ailleurs, une anorexique voit son corps maigrir. Elle en est complètement consciente, mais pour elle, c'est juste jamais assez.
Ce que veut dire Ziad, c'est qu'elle n'est jamais satisfaite de son poids. Mais plus elle se voit maigrir, plus elle ressent ce sentiment de contrôle. Elle peut tout simplement plus s'arrêter. La perte de poids et le contrôle qu'elle a pris sur elle-même par rapport à la nourriture est devenue une drogue.
Et du coup, pour la boulimique, la situation est souvent différente. D'abord, il y a souvent un événement déclencheur aux crises, comme la perte d'un proche ou une déception amoureuse. La jeune fille va venir combler en fait ce manque par la nourriture.
Par exemple, quand la jeune fille se sent anxieuse, triste ou encore en colère, elle se jette sur la nourriture pour se soulager. On pourrait comparer ça à un fumeur qui a besoin de sa cigarette pour se calmer.
Donc d'abord, il y a ce sentiment de soulagement lorsqu'elles avalent toute cette nourriture. Elles se soulagent en comblant ce vide avec la nourriture.
Mais après vient justement ce sentiment d'angoisse, de culpabilisation, de dégoût de ce qu'elle vient de faire. Et du coup, vient le moment où la jeune fille se jette aux toilettes ou avale des laxatifs pour évacuer toutes ces calories qui lui feront prendre du poids si elle ne les éjecte pas.
C'est comme si elle se vidait et se lavait du mal qu'elle venait de se faire. Plus elle fait ça, plus ça devient des gestes habituels et ainsi qu'elle peut répéter plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par mois. Ça dépend de chacune. Et vu qu'elle voit la plupart du temps qu'elle prend pas de poids, voire qu'elle en perd, elle ressent ce sentiment de contrôle en fait.
Donc oui, il y a pas mal de différences dans le déclenchement, mais à ne pas oublier que ceux qu'on a cités sont de grandes généralités. Les TCA peuvent être déclenchés par plein de choses différentes et être vécues également de manière totalement différente.
Bah oui, on va pas oublier qu'on parle d'être humain et que chaque expérience est vécue différemment.
Oui, ça paraît plutôt évident, mais autant le spécifier.
Donc, pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire, on remarque bien ces émotions paradoxalement différentes qui se brouillent dans la tête des jeunes filles qui souffrent de TCA et qui les amènent doucement au fond.
Et fondamentalement, on peut dire que toutes ces émotions sont la principale cause de leur mal-être et pas juste de leur relation avec la nourriture et leur poids, contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue. Ce qui nous ramène à notre paradoxe et nous aide mieux à comprendre l'opposition de ces émotions.
Donc on va à présent aborder le sujet de la famille, des proches, des malades. Comment la maladie impacte les proches et inversement, et comment gérer cet impact finalement ?
Alors je pense que vous en doutez, mais l'impact qu'ont ces maladies sur l'entourage est toujours très conséquent. Face à la situation, les proches culpabilisent et ils ne savent pas comment bien réagir. Alors ils agissent de la manière qu'ils pensent être la meilleure et surtout sous la forte influence de leurs émotions, de leurs sentiments de culpabilité et de leur peur.
Par exemple, les parents débarquent dans la chambre de leurs enfants anorexiques qui se changent ou simplement en l'analysant de haut en bas. Ils sortent des phrases comme « Tu vois ton corps, tu trouves ça beau ?» Le pire dans tout ça, c'est que tu n'aurais qu'à manger pour arranger la chose.
Ou on peut encore voir des parents qui vont cadenasser les armoires quand ils remarquent le comportement compulsif de leurs enfants boulimiques pour qu'elles puissent plus faire leur crise, en fait.
Ça peut aller jusqu'à tenir des propos violents à table, comme tu manges, on dirait un animal, mange plus doucement. Et du coup, on en vient au fait de pourquoi il ne faut pas avoir cette réaction.
Donc, parce que tout d'abord, que ce soit l'anorexique ou la boulimique, si vous vous posez en tant qu'opposant, elle se sentira menacée et elle arrêtera en aucun cas son comportement, voire il va s'aggraver.
Oui, en fait, c'est comme quand on empêche un fumeur de fumer. Il commencera à angoisser et trouvera d'une manière ou d'une autre un moyen de trouver des cigarettes ou d'en voler si on ne lui en donne pas ou on ne lui donne pas d'argent.
C'est la même chose pour ces jeunes filles. Vous leur enlevez quelque chose qui les réconforte, alors elles angoissent. Pour les anorexiques, leur angoisse est de prendre du poids, et pour les boulimiques, de n'avoir aucun moyen de remplir leur manque.
Alors, l'anorexique imposera juste agressivement qu'elle ne mange pas, et la boulimique commencera à aller acheter des provisions ou simplement en voler, si on lui coupe son argent de poche, par exemple.
Ce qu'on essaie de vous faire comprendre, en fait, c'est que peu importe la situation, qu'elle soit grave ou pas, empêcher la maladie de se manifester ne soignera pas la malade, en fait. C'est comme essayer de mettre un pansement sur le bout d'un bras coupé pour stopper le saignement, ça ne sert absolument à rien et ça servira jamais à rien.
Les parents ont un impact sur leur fille souffrante, mais la maladie a également un gros impact, comme celui d'une bombe dans la famille. Déjà, si la famille est nombreuse et qu'il y a les frères et sœurs, des jalousies peuvent se manifester.
Parce que oui, quand la jeune fille est malade, les parents peuvent soudainement focaliser leur attention sur elle et en oublier les autres enfants.
Oui, effectivement, et dépendant de leur âge. La situation devient vite difficile à gérer. Ils peuvent soit commencer à reproduire les actes de leur sœur en voyant qu'elle obtient l'attention de cette manière, ou alors s'acharner sur elle par jalousie.
Ça surprend souvent, hein, mais lorsque la jeune fille commence son régime et qu'elle perd du poids, ses proches, ses amis, sa famille sont les premières personnes qui la félicitent et qui l'encouragent en fait finalement à continuer.
Effectivement, donc ils ne sont pas au courant de ce qu'il se passe dans la tête de leur fillette, évidemment que non. Mais en fait, les proches qui veulent supporter leur fille dans ses convictions poussent, sans s'en rendre compte, la jeune fille à continuer à s'enfoncer doucement dans son anorexie.
Attention, par contre, quand Matteo tient ses propos, à aucun moment il insinue que les proches sont responsables de la maladie de la jeune fille. Jamais, à aucun moment et pour aucune raison, vous seriez responsable.
Ah oui, vraiment, c'est une addition des facteurs qui fait que la jeune fille est malade et à aucun moment le comportement seul de la famille la pousserait dans la maladie.
Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer de ce qu'on vient de dire? On se rend compte que la jeune fille a un grand impact sur sa famille, autant que la famille en a sur elle. Il faut alors retenir que la guérison, dont on va parler plus tard, dépend aussi beaucoup de la réaction de la famille.
Mais du coup, on en vient à se demander comment on doit bien réagir en tant que proche. C'est pour ça qu'on va écouter une professionnelle qui va nous expliquer comment bien réagir face à une telle situation. Nous allons laisser la parole à une jeune femme travaillant à l'association Anorexie Boulimie, juste après une courte pause musicale.
C'est le monsieur dehors, dehors. C'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien. Tout va bien, petit tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Petit tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien.
Quelles sont les réactions les plus habituelles en tant que parents?
Surtout, il y a de l'incompréhension, il y a un sentiment d'impuissance, mais surtout, il y a une grande incompréhension et pas mal de culpabilité aussi. Hein. Les parents ils ont souvent un peu l'impression qu'ils ont fait quelque chose de faux, et puis c'est à cause de ça que leur enfant a un trouble alimentaire, alors que c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout ça. C'est multifactoriel.
Je dis souvent que leur réaction justement est souvent sous le coup de l'émotion et souvent elles sont pas forcément, enfin elles arrangent pas la situation et je veux juste savoir en fait quel serait le comportement à avoir justement face à son enfant.
Ce qui est important c'est de reconnaître hein, qu'il s'agit d'un trouble alimentaire et puis qu'un trouble du comportement alimentaire n'est pas une affaire de volonté mais que c'est une maladie. Hein. qui est important, c'est d'encourager en fait le jeune à en parler avec déjà le médecin, le pédiatre, ou alors un infirmière scolaire ou un psychologue, enfin d'encourager en tout cas leur enfant à s'adresser à des professionnels de la santé qui pourront les aider à mettre en place les aides nécessaires pour s'en sortir. Ce qui est aussi important, c'est de ne pas trop focaliser sur ces questions de troubles alimentaires ou sur que la personne mange, mange pas, du moment qu'il y a une prise en charge professionnelle qui est organisée. C'est important de faire appliquer comme ça les conseils qui sont donné par les professionnels, ne pas faire trop de commentaires sinon sur d'autres aspects qui sont en lien avec l'apparence ou le comportement, parce qu'on risque de focaliser davantage le comportement.
J'ai entendu parler d'un lâcher-prise. Comment vous pourriez le définir? Parce que c'est un peu vague quand même comme définition, le lâcher-prise.
Pour les parents, vous dites ça?
Oui.
C'est possible de lâcher-prise pour les parents lorsqu'il y a une prise en charge professionnelle qui se fait et qui permet de déléguer finalement toutes ces questions-là aux professionnels. Il faut aussi être au clair avec soi-même sur le fait qu'on ne peut pas sauver son enfant. C'est-à-dire qu'on peut être là pour le soutenir, pour l'accompagner, pour l'encourager, mais on ne peut pas guérir à sa place. C'est clair que il faut être dans une compréhension de ce qui se passe. Et ce qui permet vraiment de lâcher prise, c'est de ne plus être chargé de devoir guérir l'autre. Après, l'acceptation, la tolérance, ça fait partie de toute cette partie qui reconnaît qu'il y a un problème.
Justement, j'ai aussi entendu que les parents ont tendance à centrer le problème juste sur leurs enfants parce que, ils voient qu'ils sont malades et ils veulent centrer tout le problème sur l'enfant et ça crée des problèmes familiaux et plein de problèmes avec les frères et sœurs. Est-ce que vous auriez une idée comment gérer le problème finalement sur la famille?
Alors, je dirais pas que c'est qu'ils veulent tout centrer sur l'enfant malade, mais c'est le fait d'être dans l'incompréhension puis dans l'impuissance qui les fait activer dans ce sens où ils ont l'impression qu'il faut que ça m'occupe davantage. Parce que justement, ils ont peur des conséquences du fait que leur enfant ne mange plus. Et alors, ce qu'il y a comme conséquence, c'est que très souvent, la fratrie se sent un peu oubliée. Et donc, nous, on dit toujours de pas oublier qu'il y a aussi, les autres enfants qui sont présents et de ne pas focaliser uniquement sur le problème.
Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là d'instauration de règles ou des choses comme ça?
Le parent n'a pas à obéir aux règles de la maladie, parce que c'est sûr qu'un enfant qui a un trouble alimentaire, il risque de demander de manger seulement certaines choses. Donc non, on continue à manger les mêmes choses. Et c'est pas à la famille à s'adapter à la maladie, mais c'est à la personne qui souffre de troubles alimentaires de s'adapter au système familial. Les règles, on peut les mettre, bien sûr, elles sont importantes. Si elles aident à être effectivement dans une répartition plus égale de l'écoute de ce qui se passe.
Si vous avez une dernière chose à dire, une simple phrase pour résumer un peu tout ça, pour les parents qui doivent être là pour leurs enfants, les soulager, qu'est-ce que vous leur diriez? Juste une phrase.
Et en une phrase, j'y arriverai pas, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, les parents sont des acteurs importants de tout le processus de guérison. C'est-à-dire qu'ils ont une part très importante dans ce qui va permettre à l'enfant de s'en sortir. Et le parent, il doit collaborer d'une part avec les milieux médicaux, avec les thérapeutes, avec tout ce qui se décide au niveau médical. Et il doit aussi prendre soin de lui en tant que parent pour être à l'écoute de ses propres limites. Ce que j'aurais aussi envie de leur dire, c'est que la guérison est possible, elle prend du temps, mais elle est possible. Et il faut y croire, c'est très important.
Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette interview, du coup?
Alors, on peut en retenir que oui, guérir d'un TCA est possible. Il faut juste passer par certaines étapes qui demandent beaucoup de compréhension de la part des proches de la malade. Il faut qu'elle s'ouvre, qu'elle ait une remise en question et surtout une prise de conscience. Tout ça va permettre à la jeune fille de mettre un premier pas, en fait, dans sa guérison.
Et si on veut remettre ton paradoxe en avant, on se rend bien compte que leurs émotions paradoxalement différentes sont dues à tout ce système d'engrenage mental sur lequel il faut beaucoup se focaliser pour la guérison.
Oui, en effet, mais très important surtout, n'oubliez pas que l'entourage n'est jamais coupable de quoi que ce soit.
On va maintenant écouter une musique de Riles Brothers.
Yep. I Came in this game like a motherfucking rat. Like I was starving for things I never thought I could have. I give you all I got, now you talk behind my back. I ain't a time philanthropist anymore. What? You came to me like a little child. I brought you up, fed you, and gave you all of my time. I taught you all I learned, lended you what I earned. Without me now, you ain't even a piece of shit, you turd. Huh. Yesterday we were brothers, I know we enemies. Understand I'm no longer, now make my time ain't free. Yesterday we were brothers, I know we enemies. Understand fuck your ego, yeah you've been too greedy. You don't know shit about how to start the game. Not the same level, struggle, sacrifices, pain. Hey yo, ain't no questioning about who is the best. You better not test, I am Gatsby, you're the guest. Yes.
Wanna snatch my dreams, I'ma be your worst nightmare.
I don't care if you do, you don't distinguish what I'm saying. Many meanings in my text, but I swear this shit no fiction. I wrote these lines cause it relived a big part of my pain. It would never be the same, nigga, I was still yelling.
Yesterday we were brothers, I know we enemies. Understand I'm no longer, now make my time ain't free. Yesterday we were brothers, I know we enemies.
On arrive dangereusement à la fin, donc on espère que vous avez apprécié notre reportage et qu'il vous en a beaucoup appris sur les TCA. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette enquête et nous espérons que vous en avez apprécié le contenu. Merci à toutes les personnes qui ont écrit les ouvrages et réalisé les reportages qui m'ont aidé à avancer dans mon enquête. Et je tiens également à remercier grandement mes collègues de m'avoir permis de faire ce reportage en me prêtant gentiment leur voix et en participant à ce reportage.
T'inquiète, pas de soucis, ça fait un grand plaisir.
Sur ce, nous nous reverrons et en vous laissant, on vous dit à la prochaine émission.
Et on vous laisse à nouveau avec la chronique de Jade sur un nouveau sujet tabou.
Pourquoi on se complique la vie ? Est-ce qu'on est vraiment obligé de porter toutes ces étiquettes ? Je vous demande à vous, si vous vous êtes posé des questions, si vos camarades de classe sont hétéros, bi, homo. De mon côté, je veux bien, même très bien. J'ai une famille superbe et une formidable petite amie. J'adore mon métier et mes collègues me stimulent et me font rire au travail. J'ai un superbe réseau social. Bref, je respire, je vis ma vie et je profite de chaque instant. Mais il y a quelques années de ça, c'était impensable. Comme si c'était pas un épanouissement, en fait, ne m'était pas permis. Dès l'âge de 18 ans, j'ai finalement accepté ce que je suis. Pendant mon adolescence, environ 12-16 ans, le désir d'être comme tout le monde m'allait bien, en fait. C'était peut-être aussi pour me protéger des moqueries ou les ignorer, finalement. Car je savais très bien qu'au fond de moi, je suis attirée par les femmes. Je vois pas aucune... En fait, je vois aucune différence après tout d'aimer un homme ou une femme. C'est toujours aimer, en fait. La société, elle voit pas ça comme ça. Effectivement, mes parents ont vite vu que j'étais différente. Je devais me tenir correctement, car ces gestes, ces tenues vestimentaires, ces expressions n'ont rien de féminin à leurs yeux. Tout était non permis. Ils n'ont jamais cherché à savoir pourquoi cette différence. Tu dors avec une fille ou un garçon ? Tout était mal interprété. Avec tout ça, ça m'a empêché de chercher qui je suis vraiment, finalement. Savoir et de faire ce que je veux, ce que j'attends de cette vie. Un jour d'été 1999, j'ai fait mon soi-disant coming out près de ma sœur et de quelques amis. Je pouvais plus faire ça en silence. Je voulais quand même partager mes joies, espoirs et mes craintes à mes êtres aimés. C'est également pour leur montrer que nous sommes tous pareils et qu'on n'a pas besoin de partager des choses similaires. Enfin, on a des besoins de partager des choses similaires. C'est sûrement après ce moment que les gens qui m'ont abusé verbalement et ont cessé de me faire des remarques désobligeantes par rapport à mon orientation sexuelle. Comme quoi, se montrer tel que nous sommes facilite les bons contacts. Mes parents ont remarqué que j'y vais mieux, que j'exprime mieux mes idées, que je suis plus vraie. Finalement, je suis la même valeur que ces gens « normaux », entre guillemets, dans cette société en évolution constante. Pour moi, la famille reste la pièce centrale, en fait. Elle commence à prendre de plus en plus d'autres formes, structures. Le format homme plus femme égale enfant. On n'est pas moins qu'un parmi d'autres, maintenant. Tant qu'un foyer procure amour, protection et discipline, pourquoi ne pas lui donner le droit d'exister ? La marche est encore longue. Mais tant que nous sommes vrais envers nous-mêmes.
Oui, l'homosexualité est encore très tabou aujourd'hui.
En effet, en Suisse, le mariage homosexuel n'est pas autorisé. Deux êtres humains s'aimant ne peuvent pas se lier par les liens du mariage comme les autres à cause de leur orientation sexuelle.
Et il existe encore des discriminations à l'école et au travail. Pourquoi ? Pour un manque d'ouverture d'esprit, par coutume, ces gens sont discriminés. Se construire une bonne image devient alors effectivement très compliqué, voire impossible, si le sujet reste tabou, et que les principales concernées, homosexuelles, lesbiennes, bisexuelles et j'en passe, se trouvent obligées d'affronter l'homophobie seule.
C'est alors ici qu'est l'importance d'en parler.
Oui, en fait, ça permet aux concernés de se sentir épaulés et de grandir en toute sécurité, du moins dans leur propre tête, et de ne pas se morfondre dans la solitude.
Encore merci au site Parents d'Homo pour ce beau témoignage qui illustrait parfaitement la situation.
On va donc malheureusement maintenant vous laisser suite à cette chronique. On espère que vous avez grandement apprécié cette émission et que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. L'équipe For West espère vous revoir pour une prochaine émission sur Radio Bus.
Des reportages inédits,
des chroniques fantastiques,
de l'actualité et de la bonne musique.
Bienvenue chers auditeurs, chères auditrices sur Radio For West.